Bonjour à tous, bienvenue. Premier épisode de la nouvelle saison. Ça fait vraiment, vraiment longtemps maintenant. Là. Mais j'avais pas fait de promesses, fait que au moins je suis safe comme ça, parce que si j'avais fait des promesses, là, tout le monde serait déçu, mais j'en ai pas fait. Fait que c'est ça. Fait que je suis content de ne pas avoir fait de promesses finalement. Donc, c'est ça, premier épisode de la nouvelle saison. Puis je suis content, en fait, je vous l'ai caché. En fait, je suis content qu'on vous soyez aussi nombreux. Puis c'est ça que je disais à Félix. Ben déjà, on est joint par Félix Brassard.
Hey, oui. Bonsoir, bonjour ou bonsoir, selon à quelle heure, dans quel espace-temps vous nous écoutez. Et ben oui, mais merci de l'invitation.
Oui, donc première moitié du Panoramique Podcast.
Exactement, oui, le défunt Panoramique Podcast, mm-hmm. Mais ouais, écoute, tel Nosferatu, peut-être reviendra-t-il des morts, ou peut-être est-ce que sa présence se fait encore sentir, j'en sais rien.
Ok, donc, c'est ça, bonne déclaration. Et on est aussi joint par Louis-Philippe Laurence aussi, donc, aussi que tu as déjà été sur le show, donc pour Vampire Humaniste, Cherche Suicidaire Consentant. Bienvenue.
Merci beaucoup de l'invitation. Je suis encore content de, un an après, de venir parler d'un film de vampire.
Ouais, encore.
Assez différent de Vampire Humaniste.
Oui.
Moins humaniste celui-là.
Ouais, lui c'est un petit peu plus. un petit peu plus de ça.
Ouais.
Et aussi Mathieu, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu, donc notre cher ami Mathieu. Mathieu Whitehall, donc très grand entourage. Ah.
On a fait plusieurs.
Ouais, t'en as fait une couple. T'en as fait combien, là?
Je sais pas, je suis rendu un ancien, là.
Ouais, là.
Tu fais partie des meubles.
Ouais.
Un vétéran.
Je vis en dessous du lit, tu sais.
Je suis content que vous soyez... En fait, c'est ça que je disais à Félix dans l'auto tantôt. Je pense que c'est la première fois que j'ai refusé du monde. Et que j'ai dit, on est full house, là, comme il faut que je demande à du monde de céder leur place parce que...
On s'excuse à Ronnie.
Ouais, sorry Ronnie.
Ben, c'est flatteur pour nous, tu sais. On dit, on n'est pas là juste pour boucher des trous, on est là parce que...
Oui. Mais...
Parce qu'on est les élus, en quelque sorte.
Exactement.
Puis c'est surprenant parce que justement, tu sais, on est full house. Puis moi, ce film-là, j'étais... Puis ça, je ne voulais pas encore dévoiler, là. Mais j'étais... comme c'est pas que je l'ai pas aimé, mais j'ai été très neutre dessus. Fait que moi, je suis content que vous êtes full house, parce que là, vous allez pouvoir tout en parler. Moi, ça va être un petit peu plus, je vais être plus laid back sur cet épisode-là, si vous allez prendre plus de place ce soir.
Correct, correct.
Moi, je vais avoir des points à dire, mais tu sais, le fait que vous êtes vraiment full house ce soir, vous allez avoir vraiment plus de points que moi je vais avoir à dire. Puis je suis très excité. Ben, j'ai dit, c'est clair, ça va être un bon épisode, mais moi c'est un petit peu plus un film que je suis neutre dessus quand même.
Il y a tout le temps le pire quand tu veux parler d'un film. Parce que quand t'as adoré, c'est facile d'en parler. Quand t'as détesté, c'est facile d'en parler. Mais quand t'es neutre, là, tu sais pas quoi.
Mais moi, je pense que je vais juste vous servir de la bière un petit peu. Là.
Ouais, ben écoute, mais tant que tu peux nous relancer des fois, moi, j'ai pas rien préparé. Hein, j'ai pas préparé de laïus.
Non, mais je sais que vous allez avoir de la conversation. Mais le fait que vous êtes vraiment beaucoup, là, tu sais, comme là, moi, je me sens pas comme pris dans un coin. Vraiment, parce que je sais que c'est un film que beaucoup, beaucoup de gens ont aimé.
Beaucoup de gens n'ont pas aimé non plus. Parce que j'ai lu sur les web.
Ah,
là,
ouais,
ça a été
si difficile que ça.
Je pense qu'il y a du monde qui n'a pas
moi,
de
j'ai, moi, j'ai jamais
mais, beaucoup moi, d'affaires j'avais cru que, ouais, moi aussi, j'avais cru comprendre que le film a été quand même bien reçu, mais c'est sûr, c'est tout le temps relatif aussi. Là. Puis ouais, je connais aussi du monde. Je connais aussi du monde qui n'ont pas forcément embarqué.
Avant qu'on embarque trop, je vais présenter la première bière parce que là. On a eu des petits problèmes techniques, fait que je veux quand même vous la goûter un peu froide, mais c'est quand même une bière qui se prend très bien chambrée. Là.
De toute façon, je suis tellement meilleur quand je suis sous, moi, fait que vas-y.
Donc, pour essayer d'être concept, là, j'essayais de vraiment trouver des affaires, puis là j'ai eu une épiphanie. Donc, l'élixir nocturne de chez les bières philosophales, donc c'est C'est une tarte impériale choco-piment. Fait que vous allez commencer quand même assez rough.
Ben ouais, c'est ça. Hein.
Puis après ça, ça va être encore aussi...
On va se brûler les papilles direct en
partant. Ouais, mais tu sais, vous êtes quand même assez lively ce soir. Fait que quand même, il faut que je vous calme un peu les ardeurs. Parce que là, je vais pas
envie... Gros, ça va être beau.
Merci. C'était sûr?
OK. Fait que, ouais. Pas toi... qu'on soit trop...
Non, mais... ça va. Si c'est pas le plus gros. Toi, t'aimes ça quand même, les Français.
Oh non, en tout cas, t'as été généreux. T'as été généreux dans ton verre. Je le dis parce que, bon, les gens... Les gens ne voient pas. Ils font seulement nous entendre déguster. Mais Chuck m'a versé un verre assez généreux, je vous dis.
Parfait. Donc, choco, piment. Là, des fois, les bières philosophales, des fois, sont un peu fortes, le piment. Des fois, j'ai de la misère, là, mais... Santé!
Santé à la vôtre!
Bonne année, les gars!
Bonne année!
Bonne année! Bonne année 2025!
Espérons qu'on ne se retrouve pas en nocturne éternelle.
Ah, le petit côté piment, il vient comme ça là-bas, là!
C'est vrai quand même! Les gars philosophes, c'est fort! En général,
non, c'est vrai, quand il nous parle de bière, choco, piment, je veux dire, ils sont...
Pardon, petit problème technique, let's go, on repart, pardon.
Ah, ben là, j'ai aucune idée de quand est-ce que ça a coupé, fait que...
Bon, tu disais des niaiseries.
Ouais, ben ouais, mais en même temps, tu m'invites, fait que tu veux que je fasse quoi pour dire des niaiseries?
Non, moi, c'est ça, je trouve, en général, les bières philosophales, le côté piment, je le trouve toujours, pas mal balancé, mais je le trouve souvent très intense.
Moi, ce que j'ai à dire, c'est « Why is it spicy?
» Non, mais c'est correct de faire une bière choco-piment. Là. C'est pas un concept qui est complètement fou. Mais en général, je dirais que quand on a une bière, des bières philosophales, ça va être. Faut être prêt à ce que ça punch dans le piment.
Ouais, c'est ils ça. Je pense que c'est juste moi qui n'étais pas vrai mentalement.
Non, tu sais, comme dans le profil du. Entre sucré et épicé, souvent les bières philosophales, attendez-vous à ce que ça soit du gros punch de piment. Parce que dépendant des microbrasseries, tu sais, ils vont faire des fois des... Tu sais, pas la première fois que je vois ça, là, une bière de microbrasserie, tu sais, avec du piment puis de l'aspect sucré. Puis dépendant des microbrasseries, ils vont avoir un penchant plus sur l'épicé, un peu plus sur le sucré. Mais les bières philo, c'est vraiment fort sur le...
C'est le
côté genre vraiment très épicé. Là.
Ça a une odeur chocolatée, mais ça goûte fuck.
L'aspect chocolaté est un petit peu plus discret là-dedans.
C'est le piment qui frappe.
Mm-hmm. Ouais, là, vraiment, le piment écrase.
Moi, je pense qu'on devrait commencer comme ça, faire un petit tour de même. Pour vos points, là, je pense, si on veut commencer.
Du film ou du.
Ben là, je pense qu'on a fait le tour de la bière un petit peu quand même. Là,
ouais, je pense que oui.
Fait qu'on pourrait commencer.
C'est chaud dans la gorge.
Oui, fait que vous aviez bien des choses à dire, Mathieu.
Mais là, on va commencer. Parce que toi, t'as dit que t'étais neutre. Fait que moi, j'ai aimé ça. Est-ce que vous avez aimé ça?
Moi, j'ai adoré ça.
Ouais, moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis très honnêtement, c'est assez rare qu'il y ait un film comme ça. Que j'y vais avec la crainte d'être déçu. Puis je m'explique pourquoi. Parce que déjà, de base, le mythe de Dracula m'a toujours beaucoup intéressé. Fait que forcément, qu'il y ait un nouveau Nosferatu, moi, je trouve forcément, de base, je suis un peu intéressé. Mais en plus, j'adore Robert Eggers. J'adore ce réalisateur-là. Je trouve que c'est dans les metteurs en scène contemporains, je trouve que c'est vraiment un des plus intéressants à suivre. The Witch, c'est un chef-d'œuvre. The Lighthouse, c'est un chef-d'œuvre. The Northman, c'est un film avec des superbes images. Je veux dire, j'adore ce qu'il fait, le gars. Fait que forcément, de me dire, ce gars-là fait Nosferatu, moi, j'avais peur d'être déçu. Je me disais, j'avais peur de comme m'attendre au meilleur film de tous les temps, puis finalement, y aller, trouver sa poche. Fait que j'ai juste essayé de me cacher le plus possible des informations, de comme pas lire sur le film.
Ils ont pas sorti beaucoup de trailers.
Ouais, moi, une fois j'étais au cinéma du parc, le trailer a joué, j'ai regardé le plancher, tu sais, je voulais comme me couper du plus d'informations possible, parce que j'avais peur de me faire des attentes. Puis au final, ben, je suis allé, puis j'ai trouvé ça super bon.
Non, mais moi, je partage ton avis, Félix. T'sais, on dirait que je m'étais dit, je me suis dit, je veux pas avoir trop d'attentes, malgré que j'en avais beaucoup. Fait que j'avais un petit, j'ai pas une certaine nervosité, là, mais tu sais, j'étais comme, J'avais une certaine appréhension, mais tu sais, moi aussi, tu vois, j'ai finalement adoré. Je partage également ton avis, tu sais, Robert Eggers, dès The Witch, il s'est vraiment imposé comme un des metteurs en scène les plus prometteurs du cinéma américain, tu sais, cinéma d'horreur. J'avais encore plus aimé The Lighthouse. Northman, jusqu'à maintenant, c'est son, je dirais, moins bon, entre guillemets, malgré que le film est de très grande qualité. Puis ce que j'ai aimé avec Nosferatu, c'est que c'est un réalisateur qui fait beaucoup de recherches pour ses films. Tu sais, autant quand tu vas dans The Witch, The Lighthouse, il y a énormément de recherches historiques qui ont été faites. Puis je trouve que ça s'est vraiment transcendé dans tout le film. Et vraiment, j'ai pas été déçu. Il s'est vraiment accaparé, tu sais, le mythe à sa propre façon. En s'inspirant des deux autres films qui ont déjà été faits, mais sans toutefois les copier.
Mmh. Ouais, mais moi, ça, je trouve vraiment intéressant dans son cinéma, c'est que j'ai toujours l'impression, quand je regarde ses films, de me dire, OK, c'est comme si j'avais déjà vu ça, mais jamais de cette manière-là.
Oui, tout je trouve à fait.
Il joue beaucoup sur l'inconscient. Inconscient collectif sur des thèmes, des archétypes qu'on a déjà, qui existent dans le cinéma d'horreur, qui existent un peu dans la culture populaire, dans ce qu'on connaît un peu du passé, mais il les amène toujours de manière comme très 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 originale, puis très 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 très, très personnelle, tu sais.
Tout à fait. Puis ce que j'aime dans ce film-là, tu sais, quand je parlais qu'il a fait de recherche, c'est que la recherche, c'est que, tu sais, c'est vraiment le Strigoi, tu sais, qui vient, tu sais, du folklore roumain. C'est le vampire Strigoi, c'est vraiment, tu sais, c'est une créature de la nuit. Et c'est pas le vampire séduisant que va être Dracula. C'est pas, tu sais, où Twilight entretient avec un vampire, name it, il y en a plusieurs. Mais, tu sais, c'est comme, c'est vraiment, tu sais, c'est une créature de la nuit. Bill Skarsgård est pas séduisant pour deux scènes, tu sais, il est pas attirant. Tu sais, c'est vraiment une créature de la nuit. Puis comme dans le film, il dit « I am a devourer », »,« Je suis un dévoreur », tu sais. Tu sens pas qu'il a envie d'être avec Hélène par amour, tu sais. C'est parce qu'il veut, tu vois qu'il veut juste avoir un contrôle sur elle.
Ouais, puis... excusez, vas-y.
Moi, c'est parce que t'as parlé de recherche. Puis un truc que j'ai réalisé, c'est que... Premièrement, vous le savez, comme fan de Dracula, puis etc. Le vrai... Il y a eu un vrai, quote-unquote, Dracula... que quelqu'un avait basé Vladimir, je sais pas trop quoi. Là.
Vlad Tepes.
Ouais. C'est ça. Vlad l'Empaleur, ce serait sur lui que Bram Stoker se serait basé pour créer le personnage.
Exact. Mais ce que j'ai aimé, ce que j'ai réalisé, c'est qu'avec la moustache, le look, je trouve, on dirait qu'ils sont inspirés un peu du...
Exactement.
Look du vrai.
C'est vrai. Plutôt que de reprendre le look des anciens Nosferatu, c'est-à-dire le crâne chauve, les grosses oreilles, le gros nez, tout ça, ouais, ils sont allés dans un truc qui ressemble plus au portrait qu'on a de Vlad l'Empaleur. Ouais.
Parce que tu parles de recherche, fait que je trouve que ça...
C'est un excellent point.
Ouais, c'est plein de détails comme ça. Par exemple, la scène, moi, que j'ai trouvé absolument sublime quand le personnage de auteur dort dans l'auberge quand il fait son voyage pour aller jusque chez Orlok.
Ouais.
Et que là, il y a ce cauchemar-là où il voit des gitans qui sont en train d'essayer de chasser les vampires. Et puis on voit, il y a une jeune adolescente nue sur un cheval qui comme marche à travers le cimetière. Ça, c'était un vrai rituel que les gitans faisaient pour vrai, pour prendre une adolescente, ouais, la faire marcher nue sur un cheval. Puis si le cheval se cabrait en passant devant une tombe, ça voulait dire qu'il y avait un vampire qui était enterré là. Et à ce moment-là, il déterrait le cadavre puis lui plantait un pieu dans le cœur. Donc c'est vraiment, c'est un vrai, un
ça,
vrai
je truc. Pas, que, c'est intéressant.
Oui, donc ça dit que Robert Eggers, il a quand même cherché, il a quand même fait de la recherche, il a quand même...
C'est le fun, ça.
Mmh? Oui, ouais. Ben, ça devient plus riche, tu sais, ça se ground dans quelque chose.
Puis il y a des petits détails intéressants aussi que, tu sais, le voyage de Utah, il est plus long, tu sais, tu vois vraiment, il va de plus en plus dans une nature sauvage, puis à mesure qu'il s'approche du château, puis tu sais, t'as des petits clins d'œil intéressants, tu sais, dans le... qu'il n'y a pas, par exemple, dans le film de Bram Stoker, Dracula, de 92, c'est qu'il y a une vieille femme qui va voir, tu sais, Otter, puis qu'elle lui offre un crucifix, puis, tu sais, pour te protéger contre les forces du mal. Puis, tu sais, il y a ce détail-là. Puis, surtout, quand il rentre dans le château, écoute, tu sais, la première fois, puis j'ai trouvé ça le fun, tu sais, on parlait dans les bandes-annonces, on n'a jamais vu l'apparence complète de Bill Skarsgård. On l'a découvert à l'écran avec tout le monde. Puis, tu sais, c'était vraiment, tu sais... il est vraiment horrifique. Là. Au départ, de Bill Skarsgård, c'est un bel homme, il y a beaucoup de maquillage. Mais tu sais, la première fois qu'on le voit dans le château, puis tu sais, la scène où il se coupe, à terre se coupe, tu sais, les yeux, les jeux d'ombre, très inspiré du film The Innocents. Aussi, tu sais, mettons, pour l'aspect fantomatique, c'est pas un film d'horreur, mais c'est inspiré aussi de Cries and Whispers de Mark Bergman. Tu sais, il y a plusieurs réalisateurs qui l'ont inspiré, mais je trouve vraiment que c'est, tu sais, dès les premières 10 fois qu'on voit, tu sais, le comte Orlok dans le château, vraiment, c'est... T'as envie de dire, ah, attends, non, sac ton camp, puis... puis tu vois, il donne une raison pour aller, tu sais, le comte Orlok pour aller, pour changer de pays, c'est vraiment que... Il y avait un lien avec Hélène au départ.
Et ça, c'est quelque chose que cette version-là a amené. Parce que dans les autres versions d'avant, c'est le personnage de Hélène, je veux dire, le Orlok n'a pas entendu parler d'elle avant de voir la photo du médaillon. Là. Ça, c'est dit de manière très claire. Tandis que dans la version de Iger, ben, il nous dit qu'il y avait déjà un lien entre les deux personnages. Déjà plusieurs années avant, elle était un peu sous son emprise de lui qui était au loin. Puis, ça permet quelque chose de vraiment intéressant parce que là, le film va être beaucoup plus centré sur Hélène, justement, sur le personnage de Lily Rose Depp. A une importance beaucoup plus grande dans le film alors que d'habitude, elle est là, finalement, juste pour être un peu l'appât qui...
Puis même si c'est pas tout à fait expliqué au début qu'est-ce qui se passe, le pourquoi, on l'apprend après, mais il y a quand même ce lien qui dit, OK, on comprend le lien entre tes personnages. Mm-hmm. Puis ce que tu disais aussi de Count Orlok, ce qui est le fun, c'est que la façon qu'on le voit, on le voit pas bien, la majorité du film, tu sais. Pas clairement au c'est complet. Vrai. Puis je pense que ça garde un peu le creepiness, le fait qu'il est creepy, tu sais, comme, OK, mais... Ça ressemble vraiment à quoi, le gars, tu sais? Parce que je le vois pas bien.
C'est vrai.
Il est souvent ensombré. Ou il y a des focus sur les yeux ou des close-up, mais on les voit jamais bien, l'image au complet.
Souvent dans le flou aussi. Ouais, ouais.
Ben, y a une scène aussi qui est intéressante, c'est que pour ceux qui écoutent le podcast, on vient de regarder les quatre ensemble, le tout premier de la version de 1922.
Ouais, 1922, ouais.
C'est que Uther, une des scènes, il va, et durant le jour, il découvre la tombe du comte Orlok, puis tu sais, ça lui fait peur, mais il fait absolument rien, il va se renfermer dans sa chambre. Tandis que dans la version de Eggers, il essaie de le tuer avec un pieu, mais tu sais, Orlok se réveille, puis tu le vois même quand il est nu, tu sais, c'est comme, il est, tu sais, comme quand je disais l'aspect horrifique, tu sais, c'est comme, il est tellement fort que, tu sais, il bloque, tu sais, le coup, puis il finit par s'en aller, il fait juste le regarder, puis tu sais, juste par son apparence horrifique, Uther finit par se sauver.
Ouais.
Fait que c'est ça, tu sais, comme je dis, quand on fait des petits liens, pas forcément pour expliquer, mais tu sais, pour démontrer, tu sais, pour donner un petit peu plus de chair autour de l'os que la version de Murnau, qui est très bonne, là, mais tu sais, c'est encore une fois, tu sais, avec... T'sais, on est allé vraiment au strict minimum.
Et tu vois, encore là, une fois, on le voit nu, fait que tu sais comment je le vois, mais on voit pas bien la face.
Mm-hmm.
Il le laisse un peu plus ensombrer. Fait que comme tu le vois, mais tu le vois pas. C'est bizarre. Ben, c'est pas bizarre, c'est intéressant.
Ouais, puis ça rajoute au fait que c'est une espèce, finalement, Nosferatu, c'est un peu une espèce de présence fantomatique qui est là, mais qu'on l'a jamais vraiment devant soi. Il est partout, il est nulle part en même temps, tu sais, c'est... La scène aussi très très belle avec sa main, l'ombre de sa main qui
quel plan, quel
qu'on voit par-dessus la ville. C'est cette idée-là aussi, il est partout mais il est nulle part en même temps.
Mais j'ai aussi aimé le fait que c'est comme... Oui, c'est un vampire, mais ils sont un peu plus dans le démonique. Tu sais, il est comme... Si tu es un démon, c'est un vampire, parce qu'on dirait qu'il est comme... Il était ressuscité, on dirait, là, la façon qu'il en parle un petit peu. Puis c'est plus une entité, plus que nécessairement un vampire.
C'est un dévoreur, tu sais, c'est ça, tu sais, il veut voir toute la vie. Parce que, tu sais, mettons, dans Dracula, tu le sens, ben, dans le roman de Bram Stoker, il n'y a pas vraiment d'émotion quand tu lis le roman, mais c'est sûr que, tu sais, mettons, la version, par exemple, de Coppola, tu sais, tu le sens, tu sais, qu'il est plus humain, entre guillemets, puis, tu sais, il est très amoureux de Mina, mais là-dedans, tu sais, c'est comme, tu sais, certains de mes amis disaient, ah, tu sais, on aurait aimé ça voir qu'il est plus amoureux de Hélène, ou tu sais, c'est comme, ben, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est vraiment...
Ah, mais ça, c'est un truc, justement, que Coppola a amené, parce qu'on entend toujours dire que c'est Coppola qui a fait la version la plus proche du roman.
Tout à fait.
C'est vrai au niveau du déroulement des événements, mais le personnage en lui-même, comme tu dis, il a amené un côté comme de quoi que c'est une espèce d'amoureux transi qui avait perdu sa femme à l'époque, c'est pour ça qu'il est devenu diabolique, puis là, il la retrouve dans le personnage de Mina, qui est le personnage de Winona Ryder. Mais ça, c'est quelque chose que Coppola a amené. Dans le roman de base, il n'y a pas de lien amoureux entre les deux. Iger est beaucoup plus proche de Bram Stoker que Coppola sur ce plan-là.
Mais en parlant de ça, tu sais, comme je me rappelle plus c'est qui, je pense c'est Charles Lotois qui est le Félix qui l'avait mentionné, c'est cette version là c'est plus on met plus au centre Lily Rose Depp, son père, elle, ouais. Ellen. Puis tu sais, elle dit après, un peu plus loin dans le film que c'est elle qui le summon à cause de sa loneliness.
Ouais.
Tu sais, fait que c'est elle qui lui a invité sa présence quand elle était plus jeune.
Mm-hmm.
Fait que genre un attachement pas seulement amoureux comme tu dis, c'est un craving parce que c'est elle qui l'attire.
Ouais, c'est ça. Pas encore l'attachement aux détails qu'on parlait tantôt, parce que dans la légende, normalement, le vampire peut seulement entrer dans une maison s'il a été invité.
C'est ça.
Fait que là, l'idée que justement, c'est elle finalement qui le veut, parce que son couillon de mari, il met son travail avant ses besoins à elle. Donc, ouais, c'est...
Mais c'est... Parce qu'encore une fois, pour revenir à la recherche de Eggers, c'est un thème qui a vraiment... dans The Witch, au départ, son tout premier film, c'est que, tu sais, un peu la répression sexuelle, tu sais, un peu, tu sais, l'hystérie. Puis, tu sais, c'est comme, dès qu'elle a, tu sais, vraiment, quand, Orlok s'approche du village, puis, comme l'espèce de trans, tu sais, des trans qui ont allusion à la sexualité, tu sais, elle se touche, puis c'est comme, OK. Puis après ça, t'as le premier médecin qui va la voir avant le personnage de Willem Dafoe. Ah, ben, tu sais, elle est hystérique, faut y mettre un corset. Tu sais, c'était souvent ça, les femmes de l'époque. Ah, elles sont hystériques, on leur met un corset, tu sais, pour les contrôler. Fait que, tu sais, encore une fois, il y a cette idée-là que je trouve c'est très, très intéressante. Et même, tu trouves, tu sais, Lily Rose Depp est très proche, tu sais, Isabelle Adjani dans la version de 79, mais aussi Adjani dans le film Possession, tu sais. Très physique son jeu. Elle a eu un coach physique, puis elle l'a dit en entrevue. Moi, je pensais que ça allait être, tu sais, libre, que j'allais faire quelque chose, tu sais, de freestyle. Non, non. Elle avait un coach physique pour lui montrer, tu sais, pour l'entraîner. Puis je trouvais, tu sais, elle faisait un très remarquable, très physique comme cinéma. Puis, tu sais, des personnes qui disaient, vers la fin, j'aurais aimé ça voir, tu sais, Orlok se battre contre les trois hommes. Finalement, tu sais, c'est elle qui se sacrifie. Mais tu sais, à un moment donné, t'es comme, ben, encore une fois, même s'il y avait eu un combat entre les trois hommes, Uther puis les deux médecins, tu sais, il est tellement fort, tu sais, de toute façon, c'est lui qui aurait gagné. Fait que je trouve ça plus intéressant que, tu sais, l'idée du sacrifice.
Chacun, moi aussi. Mm-hmm. Puis, tu sais, on vient de voir l'original.
L'original.
Tu sais, puis le comment ça s'appelle, le boss, le banquier, là. C'est fou que t'aimais le Danny DeVito.
Oh mon dieu, je me suis fait.
Knock!
Ben tu vois, lui, dans le nouveau, il a servi à quelque chose.
Ouais, ouais.
Tu sais. C'est le piège, tu sais, le
fake out. C'est la première scène où on le voit fait tellement contraste avec les deux autres films, avec justement la version de Murnau et la version de Herzog, où tu vois, dans les premières versions, tu vois, c'est une espèce d'être complètement grotesque qui se garoche partout, qui fait des faces pas possibles. Alors que dans la version de Eager, ben là, tu vois quelque chose en lui d'un peu twisted, mais. Ça peut passer aussi quand même. Fait que là, et après, ben, plus le film avance, plus, ben là, évidemment, sa nature de fou démoniaque ressort.
Ben c'est le plus que Orlok s'approche, le plus devient comme.
Exactement.
Fou, sous le spell d'Orlok.
Ouais, c'est ça. Puis ça, c'était intéressant parce que dans les deux autres films avant, on se posait la question, on se disait, OK, mais pourquoi personne n'a l'air de se rendre compte à quel point il est bizarre, tu sais.
Ouais.
Fait que ça nuisait un peu aux autres films, là.
Ouais.
Puis, tu sais, mettons, quand tu revois la version, tu sais, de. Voyons, de. Max Schreck qui jouait. Tu vois qu'il est un peu courtois quand il invite Uther chez eux.
Drôle de courtoisie, mais en tout cas,
drôle de courtoisie, pas, mais tu sais, c'est plus dans la version de 79 que, tu sais, Kinski, tu sais, le personnage est très courtois quand même avec. Puis là, dans 79, curieusement, c'est Dracula qui s'appelle, puis Jonathan Harker. Mm-hmm. Il utilise
exactement, ouais.
Mais, tu sais, dans
la version. Tout à l'heure, ce que je disais, c'est pas tout à fait vrai. Je disais que c'est Coppola qui avait amené, comme qui avait un peu. Donner une sensibilité à Dracula puis une certaine dimension tragique, mais c'est vrai, t'as raison que Herzog le faisait déjà. Ouais.
Il l'a déjà fait parce que c'est très symbolique. Tu sais, ça commence vraiment, là, tu sais, t'entends une musique très hypnotisante, puis tu vois, tu sais, des momies mexicaines, je sais pas, des momies... Je sais pas si c'est des momies d'Amérique du Sud, là, puis tu sais, qui sont morts de la peste. Okay. Puis, donc, c'est vraiment, tu sais, très symbolique pour dire que, tu sais... Dracula a amené la peste, c'est le porteur du mal, de la peste. Mm-hmm. Puis tu vois qu'il est quand même assez courtois avec Jonathan Harker quand il le reçoit au château, malgré qu'il soit très creepy, là, parce que tu sais, on le voit un peu dans 1922, le plan n'est pas tout à fait bien fait parce que tu le vois de dos, mais dans version 79, quand Jonathan Harker se coupe en coupant du pain, il prend le pouce puis il suce là, vraiment, là, puis... Puis dans la version de
2024... Probablement une métaphore pour autre chose.
Ouais, c'est ça. Probablement une métaphore pour autre chose. Puis, mais dans la version de 2024, tu sais, il est absolument pas courtois, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, OK, ben, mange, là, puis... c'est ça, tu sais, tu vois vraiment, tu sais, que c'est... il y a du pain, ben, mange. Puis, tu sais, quand il essaie, tu sais, de dire, il y avait des superstitions que j'ai entendues avec les gitans, tu sais, je veux pas parler de ça. Tu vois vraiment, tu sais, qu'il est là pour faire dealer la business, puis après ça, je vais me débarrasser de toi.
Mm-hmm. Il s'en fout.
Il s'en fout.
C'est pas lui qui l'intéresse. Ouais. C'est sa femme.
Mais qu'est-ce que je voulais apporter aussi comme point
Pendant que tu y penses, moi, quand j'ai dit la neutralité par rapport à ma perspective, c'était pas. Puis je veux développer là-dessus. C'est pas que j'ai trouvé le film, tu sais, comme que j'ai pas eu d'émotion par rapport à quand je l'ai vu. Parce que j'ai vu aussi d'autres films de Robert Eggers, j'ai vu The Witch, j'ai vu The Lighthouse, j'ai essayé de voir The Northman, j'ai pas encore eu la chance malheureusement, mais quand j'ai vu ce film-là, j'étais juste un peu mitigé par rapport au style de Robert Eggers, parce que d'habitude je trouve que Robert Eggers il est très centré sur l'authenticité dans le dialogue. Va mettre comme presque t'as besoin de sous-titres là, pour comprendre. Fait que c'est ouais, difficile, c'est là, tellement. Mais là, j'ai trouvé que ce film-là, pas que, comme la neutralité, c'était par rapport à comme comment j'ai trouvé que le film était bon, mais on dirait que ça ressortait de son style habituel. On dirait qu'il était moins. Tu sais, comme je m'attendais à ce que l'anglais soit un petit peu plus compliqué. Il le fait comme vraiment plus. Comme à la hollywoodienne, j'avais l'impression que mais c'était moins son style qu'à la
Sur le plan du langage, par contre, n'oublions pas qu'à un certain moment, il fait parler Orlok en Das.
Oui, oui.
Qui est la langue des ancêtres des Roumains.
Ce que je veux dire, c'est que je regardais...
Il y a encore son goût aussi pour cette authenticité-là, puis ce côté-là.
Je regardais le film, puis j'étais comme... Ah, c'est bon, ça marche bien, mais on dirait que c'est pas... on dirait qu'il a fait des concessions... ou quelque chose, on dirait que ça filme moins comme son style. Quand je l'ai regardé le film, j'avais vraiment l'impression qu'il avait fait comme, pas des sacrifices, mais qu'il se bendait un petit peu plus à l'aspect un petit peu plus hollywoodien, plus accessible, un petit peu plus, tu sais...
Si je peux me permettre...
Oui.
En fait, c'est parce que ses premiers films, il les a fait avec A24, puis là, c'était Universal. Je sais pas
si c'est
parce qu'à un moment donné, les producteurs ont voulu...
Ouais, ben, c'est ça l'impression que j'avais. Je sentais qu'il y avait comme un plus gros joueur qui était rentré, puis il dit, là, tu vas essayer de rendre ça un petit peu plus compréhensible, là, pour aussi... le commun des mortels, là, parce que c'est ça, les autres films qu'il fait, comme vous avez tout dit, il fait vraiment beaucoup de recherches, puis ça en devient presque obsessionnel, là, tu sais, comme qu'on a presque... la misère à comprendre le film tellement que c'est proche de comme la réalité même. Puis là, j'avais vraiment l'impression de dire, OK, je suis vraiment bien, c'est très même, je veux pas dire by the numbers, c'est pas ça que je veux dire, je pense que c'était très esthétiquement, tu sais, beau, puis de la façon que ça avait été tourné, c'était vraiment très très bien, mais j'avais vraiment l'impression qu'on dirait qu'il était moins dans son gros prime, le Robert Eggers, qui d'habitude, il est vraiment plus fort sur l'aspect de comme, je vais pas rendre ça facile aux téléspectateurs, là, je vais rendre ça le plus authentique possible. Puis là, cette fois-là, quand j'ai regardé ce film-là, j'étais comme, OK, moi, j'ai tout compris, là, en ce moment, là, ce qui, d'habitude, j'ai un peu de la misère avec Robert Eggers. D'habitude, je suis comme, ils sont où mes sous-titres, parce que là, quand je regarde The Witch, puis quand j'ai regardé The Lighthouse, encore là, comme t'as dit, l'acting, puis même juste comme le color grading dans ses autres films était pas mal plus contrasté. Là, dans celui-là, je sentais que c'était un petit peu plus, tu sais, comme Encore là, ouais. Je veux pas utiliser le terme neutre, c'est pas ouais, ça que je veux dire.
Il y a peut-être
des
mouvements plus grand public.
Mais faut pas oublier aussi que c'est un film qui a mis beaucoup de temps à réussir à faire financer. Il était censé.
Peut-être qu'il a fait des concessions.
Bah oui, il était censé le faire déjà après The Witch. Finalement, bon, au final, ça aurait été son quatrième film parce que ça a été long réussir à monter le projet. Et on sait que quand c'est long, ça veut peut-être dire que ça a chopé à certains endroits puis qu'il a peut-être effectivement dû faire des concessions. Ça se peut. Ça se peut.
Mais c'est ça, je dis pas que c'était j'ai trouvé que c'était un mauvais film. J'ai juste senti que c'était moins le prime de Robert Eggers de ce film-là.
La seule c'était déception...
C'était moins comme lui, en tant que lui à l'état pur, là,
ouais, je comprends,
en tant que réalisateur.
Je comprends, mais moi, la seule déception que j'ai eue par rapport à ce film-là, c'était que j'aurais aimé avoir plus peur en le regardant.
Ouais,
parce que les films de Robert Eggers font peur d'habitude.
Mais c'est ça, je sentais pas. Tu sais, comme j'ai aimé, j'ai trouvé que il y avait des bons éléments qui avaient été apportés. Ils ont suivi tous les codes du film de genre.
L'esthétique
mais j'ai
extraordinaire.
Pas eu la chienne.
Ouais, c'est
j'ai
ça.
J'ai pas eu la chienne.
Dans The Witch, quand, tu sais, un moment donné, quand la sorcière apprend le bébé, puis tu la vois juste dans l'ombre, comme dans ce film-là. Tu la vois, dans l'ombre quand t'as fait le sacrifice avec le bébé. Puis tu sais, la musique très inspirée de Aksan. Puis tu sens, tu sais, que tu la sens
c'est
respirer, genre. Puis tu sais, c'est comme, ah, tu sais, elle dégueu. Puis tu sais, quand elle se retrouve dans l'espèce, tu sais, ils se font enfermer, les trois enfants avec la sorcière, puis qu'elle boit le sang, tu sais, de la chef, tu sais, qu'elle sort.
C'est
elle est horrible. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas les sorcières d'Harry Potter, là, tu sais, c'est comme, elle est dégueu.
Tu veux pas t'approcher de ça.
Puis t'es même dans The Lion
King. T'as juste Hermione qui sort là, c'est bébé.
Ouais, t'es Hermione qui arrive.
Puis t'es Wingardium même... Leviosa, tu sais, je veux dire, ça fait moins peur, tu sais.
Mais t'sais... c'est ça, je suis habitué à cette intensité-là avec Robert Eggers.
Mm.
Puis c'est pour ça que je disais que j'avais pas l'impression que c'était lui qui était aussi intense qu'il était à la.
Mais ouais, mais ça se peut qu'il ait voulu en faire un truc commercial. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est la distribution du film. Le film-là est dans tellement de salles à Montréal. C'est ok, il est dans des salles que je savais même pas que ces salles-là existaient. Là. C'est vraiment, ils ont voulu en faire un succès. Là.
Mais tu vois, en même temps, vous parlez de l'aspect Fear Factor, là. Moi, j'ai un peu aimé le fait que c'est pas comme un peu les styles de tout commercial de tout Hollywood, là, les films d'horreur, blasts de jumpscare partout ici, pis là. Moi, il y en avait, je pense, un au début, là.
Il y a quelques jumpscares.
Quand il apprend par la gorge,
c'est ça.
C'est comme
il y a quelques jumpscares, mais ils sont un peu.
Mais en même temps, mais ça me dérange pas.
Jumpscares.
J'ai aimé qu'on sorte un. Parce que moi, ce que j'ai aimé de ce film-là spécifiquement, c'est que on a un peu sorti un peu de la l'habitude des films d'horreur plus. Que tout le monde fait pareil, là, quasiment.
Ouais.
Lui, il était un peu plus... Tu sais, il était pas... Je sais pas, en train de shaker dans mon siège, mais il est uneasy, tu sais, avec son respire, avec son... Genre, okay, mais lui,
il est moody.
Il est creepy, genre...
Ouais, son respire. Ouais,
mais comme enfants de même, ça fait que, genre... Okay, je suis pas à l'aise. C'est moi, je serais là. Si moi, j'aurais été collé de ben vite de là. Tu sais, I would have ran the fuck out.
Ça reste un film même quand le chariot arrive pour chercher Hutter, il y a personne qui dirige le chariot.
Non,
là,
c'est ça.
T'es comme, ok, ouais. T'sais, déjà, au départ, t'es comme, revire d'abord.
Mais tu vois, un autre travail là-dessus, j'ai aimé un peu. On dirait qu'il a utilisé plus des styles de tournage un peu plus. Moins modernes, j'ai l'impression. Des trucs comme, t'avais la porte qui était clairement automatisée, là, mais comme. C'est pas du sujet, puis j'ai aimé aussi.
C'est vrai. Les effets spéciaux font très, entre guillemets, artisanaux, comme tu dis.
C'est pratique, on dirait que c'est des effets pratiques.
Ouais, ça a l'air juste.
Il y a une shot que j'ai fait, ok, là, le CGI là-dessus, il est off, là, mais.
Ok.
Quand ils sont sur le canot, puis un peu vers la fin du troisième acte, là, ça, j'ai vu le CGI, là, ça, j'étais comme ça.
Non, mais je veux dire, je trouve que le CGI est utilisé d'une façon que c'était pas comme. In your face, il y avait des sets, c'était des
En général, on voyait quand même beaucoup de
clairement, le Nosferatu, c'était des prosthetics, c'était pas tout du CGI, il y en a peut-être eu un petit peu.
Une bonne partie du film a été tournée à Prague, dans la très belle ville de Prague, qui est d'ailleurs une des villes qui a le plus gardé son cachet un peu médiéval. Puis en tout cas, je sais pas si vous avez déjà eu la chance d'aller dans cette ville-là.
Non.
Mais c'est génial, parce que chaque quartier, on a l'impression de changer d'époque. C'est vraiment...
Mais c'est le fun!
C'est un super bel endroit.
Parce que c'est pas pour faire ça. Dans un temps où ce que beaucoup de films est, est beaucoup sur le CGI, beaucoup écran vert, c'est le fun d'avoir un film aller un peu à la...
Ouais, comme je dis, c'est genre une moderne, shot que dans ce film-là que j'étais comme...
Non, mais c'était c'est comme les loups, pas beaucoup, les loups, t'as le CGI, clairement, c'est correct. Fine, à un moment donné, tu...
Non. Non, non, mais je parle de comme pas comme qu'on voyait au travers, là. C'est ça. Deux shots.
C'est ça, c'était quand même...
C'était acceptable, t'sais.
Mais non, c'est ça, j'ai... Bref, moi j'ai aimé le fait que c'était comme pas... C'était creepy, c'était...
Ouais,
c'était
uneasy, il est très creepy, pas... c'est ça, ouais, c'est très inconfortable.
C'est quand il est là, c'est comme... ok.
Mais ouais, comme t'as dit, pas au point de comme The Witch, où est-ce que justement il y a des moments où est-ce que c'est vraiment comme... Tu te sens pas bien, là, c'est... Puis justement, la scène que t'as... Moi je me souviens de comme ça, ça m'a fait sauter, là. T'sais, vraiment... Dégueulasse, là.
Mais c'est peut-être vraiment... aussi l'affaire que tu disais tantôt, l'affect que c'est Universal, c'est peut-être...
Ben ça, c'est Universal.
Fait que le rend plus accessible.
Ou c'est aussi, ben je sais pas dans quelles conditions vous avez vu le film, mais moi, le voir dans une salle pleine avec peut-être des fois des gens qui ricanent un peu, des fois, peut-être ça aide pas à embarquer dans le film à 100%. Je serais curieux de le revoir.
On était 10.
Ok, ah bon, ben j'ai rien dit. Hein?
Tu sais, même je te dirais The Lighthouse. Je sais pas, c'est peut-être moins peurant, mais tu sais, c'est inconfortable. Tu sais, je veux dire, t'as pas envie d'être là, là. Tu sais, je veux dire, c'est...
C'est quand c'est le malaise, ouais, de l'aspect vraiment plus comme l'inconfort entre la paranoïa, mm-hmm, puis tout ce qui s'instaure dans le jeu d'acteur. Vraiment plus, comme tu as dit, c'est pas de la peur comme ouh! C'est vraiment plus comme justement, là, comme t'es pris avec quelqu'un, puis tu vires fou avec cette personne-là, parce que justement, c'est quelque chose qui arrivait dans ces contextes-là. Il y avait beaucoup d'incidents où est-ce que justement les hommes viraient fous entre eux juste à cause de l'isolation. Quand c'est pas humain.
T'es 5 semaines, 4-5 semaines, pas hommes qui vivent là. T'es seul en train de faire un travail avec des conditions minables. À un moment donné, tu revires fou. Puis tu sais, encore une fois, les dialogues, tu sais, même t'sais, les dialogues entre les deux,
c'est une pièce de théâtre.
Mais moi, il y a un truc sur lequel je voulais rebondir dans Nosferatu, c'est que, tu sais, quand on parlait, tu sais, qu'il était un dévoreur, tu sais, il en va au point, tu sais, tout l'entourage du personnage d'Hélène, ben, tu sais, il rend fou, tu sais, il y a des personnages qui attrapent la peste. Tu sais, quand il se met à boire le sang des deux fillettes, t'es comme, ok, là, ça, on va jusqu'à là.
Encore non, quand même, ça, pour un film dont on dit qu'il a peut-être fait des concessions... Ça, quand même, d'avoir osé tuer les deux enfants puis de manière assez brutale, ouais, c'était quand même... Pas forcément tous les films qui auraient fait ça.
Je connais des personnes qui ont dit « Oh, moi, je serais allé plus trash là-dedans. » Je suis comme « Ben, c'est déjà horrible ce qu'il fait. » Tu sais, je veux dire, c'est un tableau
futile. Ouais, tu devrais pas parler à ces gens-là, ils ont l'air bizarres.
Tu sais, c'est comme... Ok, tu sais, c'est assez horrible. Non,
c'est subjectif.
Non, mais moi, c'est 100% subjectif. Tout ce que je dis est subjectif.
Tu sais, les gens, ils ont le droit. Ils ont 100%
de droit. Tout est de la subjectivité, Félix.
La vérité n'existe pas.
La vérité pure n'existe pas.
Quelle est la conception de comme nous? On a tout inventé.
Ah ouais, c'est ça, exactement.
On est toute une projection. Non, mais oui.
Ils ont 100% de
droit. Tout ce qui est vrai, c'est le piment dans cette bière-là.
Ils ont 100% de droit à leur opinion. C'est juste que je trouvais que j'étais comme, ok, ben, tu sais, au départ, je suis comme, ben, ce qu'il fait en soi, ben, je suis tout à fait d'accord, tu sais. Ok.
On sait pas par contre s'il y a vraiment eu des relations sexuelles, Aaron Taylor Johnson avec le cadavre de sa femme.
On a gardé ça
semi-sous-entendu.
On va pas là.
Ok.
La scène où il s'en va dans le caveau.
On est pas trop sûr.
Mais le personnage.
Peut-être qu'il y a un producteur qui a dit à Eggers, j'ai dit là, ça, tu montes pas ça.
Ouais, je pense qu'il y a peut-être une page qui a été écrite.
Ok, peut-être pas. Mais oui.
Non, mais le personnage, Aaron Taylor Johnson, vraiment, il y a définitivement quelque chose dans les... parce que dans les autres versions, c'est un personnage qui est pratiquement pas là. Le personnage de l'armateur qui est
vraiment construit beaucoup.
Ouais, ils ont mis beaucoup plus de choses autour de lui. Puis moi, dans la salle, je sentais tellement un vent d'hostilité par rapport à ce personnage-là.
Oh, ouais,
je sentais que tout le monde le trouvait con, puis insupportable, puis prétentieux. Et puis moi, je me disais, comme ouais, mais... Vous feriez pas mieux dans ces bottines. Il me semble que c'est un peu comme le seul personnage qui, du début à la fin, lui, les vampires, il croit pas là-dedans. C'est quoi cette histoire-là?
Ah ouais, mais c'est veux le rien. Personnage décrit comme
c'est ça. C'est le cartésien comme radical que lui, comme tu feras pas croire à ça, les superstitions. Mais À cause de ça, à la fin, il se ramasse avec le mauvais rôle.
En même temps, après, il vire fou. C'est comme littéralement.
Ben oui.
Parce que justement, il est exposé à cette réalité-là et ça brise toute la perspective qu'il a eue toute sa vie.
Mais justement, c'est intéressant.
Ça apporte ça, qu'il perd la raison.
Mais c'est intéressant parce que c'est justement celui qui essaye de se cantonner à la raison tout le long. C'est celui qui, au final, vire fou, tu sais. C'est quand même bien là, que Robert Eager fasse ça avec toute sa fascination qu'on sent dans tous ses films pour les contes, les légendes, tout ça. J'ai l'impression qu'il s'est fait un peu plaisir en disant comme « Ouais, toi, là, le personnage de réaliste... »
Avec le personnage de Willem Dafoe.
Je vais te faire souffrir.
Justement, tu comparais à ce qu'on vient d'écouter avec le film original, tous les autres personnages, les Stalkers, sont beaucoup plus « fleshed out ».
Ouais.
C'est tout. Le professeur, il a rien fait dans l'original. Là.
Fuck off. C'est vrai, hein, les personnages, ils servent à
fuck off. Et puis, on a remarqué justement dans l'original, il n'y a aucune scène, on pense, entre le personnage de. Son nom m'échappe, là, mais le personnage principal.
Otto.
Il n'y a aucune interaction, presque aucune scène avec le professeur.
Alors, il vient de où? Tu connais comment?
Littéralement, il va le voir à la fin du film. Puis on est comme, vous êtes jamais rencontrés, guys.
Comme même là, ça servait à rien.
Ouais, puis ça servait à rien.
Ici, je trouve que les personnages ont été quand même bien fleshed out, qu'on comprenne leur rôle, puis ont tout un peu servi à quelque chose.
Mm-hmm. Oui, exactement. C'est ça, les personnages ont des fonctions.
Mais c'est clair que c'est le personnage de
Lily Rose qui est le principal.
Vraiment le plus de présence.
C'est le plus intéressant, mais les autres ont quand même des choses.
Oui, ils ont été bien développés quand même. Elle qui a, tu sais, que le film est construit autour
mais
de
tu vois, mais c'est aussi comparé à l'original. C'est pas elle la principale dans l'original, c'est lui.
Exactement. Dans l'original.
C'est elle. C'est elle l'enjeu. Mm-hmm. Puis tu sais, même comme on disait tantôt avec les aspects horreur puis de tout ça, elle, à chaque fois qu'elle a des elle est possédée, là, mettons, là, d'un sens, c'est comme, c'est malaise. Son acting est genre, ok, je suis un peu malaisé.
Ouais, c'est ça, mais encore une fois, il réussit bien à transmettre le malaise. C'était comme,
c'est un mec sexuel, mais en même temps, ça l'est pas. C'est pas elle qui le fait, c'est lui, c'est Nosferatu. Nosferatu, c'est Orlok qui l'a fait sentir ces émotions-là, tu sais.
Puis c'est ça, au début, tu sais, quand il dit à Uther, tu sais, j'ai rêvé que je me mariais, c'est notre mariage, il y avait la mort devant moi, mais que je me suis jamais senti aussi heureux. Puis il dit, tu sais, quand il vient, quand il est dans moi, il me fait jamais autant jouir que c'est toi, c'est comme oups là. Tu me fais jamais autant jouir que quand c'est lui, t'es comme oups là, tu sais ça. Ouh. Fait que tu sais, c'est ça, comme ça. Puis d'un autre côté, elle est comme répugnée par lui, fait que. Puis tu sais, même dans sa manière de boire le sang, tu sais, je veux dire, on a vu beaucoup de vampires boire le sang au cinéma, mais c'était comme, même dans sa manière de boire le sang, avec
c'est vraiment un parasite, là, c'est vraiment comme... Ouais.
Puis elle est après le corps.
Ouais, exact.
C'est intéressant parce que c'est je pense que c'est l'organe qui pompe le plus de sang.
Ouais. Exactement, ouais.
C'est là la viande,
mais
la sauce.
Mais la symbolique est forte aussi, c'est comme il te mange le cœur, c'est-à-dire il te prend possession de ton être, de ce qui te fait vibrer, là, je veux dire, c'est une excellente idée d'avoir fait ça, là.
Ouais. Ça fait changement de coup, et des deux petits pas dans le cou, tu sais.
Ouais, c'est ça, tu sais.
Ça brise le visuel aussi.
Ouais, c'est. Mais c'est cool de voir justement sur quel point il reprend tous les classiques de films de vampires, puis comment sur d'autres points, ben là, il innove totalement. Là, c'est ça.
Ben, en entrevue, Lily Rose Depp, elle disait que le réalisateur lui a fait écouter beaucoup de films pour s'inspirer, puis elle lui a fait lire un texte, et en français, elle-même, elle se rappelle plus le nom, mais c'est comme une histoire d'horreur dans laquelle, genre, une jeune adolescente, une jeune adulte a un sexual awakening avec une entité démoniaque. Mais c'est juste que quand tu regardes, tu sais, mettons, autant, tu sais, dans Bram Stoker Dracula de Coppola, tu sais, autant comme, mettons, d'autres histoires comme, tu sais, le fantôme de l'opéra, là, je parle des films, je parle pas de la source material qui est le roman. Tu sais, mettons, t'as le personnage, la protagoniste, puis qui a un amoureux on the side, tu sais, c'est comme, c'est un amoureux, c'est romantique. Mais quand t'es avec l'entité, soit le fantôme, ou soit avec Dracula, il y a quelque chose, tu sais, de plus charnel, de plus sexuel, tu sais, qui arrive qu'avec son propre amoureux. Tu sais, comme je dis, propre amoureux, on s'est embrassé, on est amoureux, tu sais, quasiment un amour d'adolescent, mais avec, quand l'entité arrive, il y a quelque chose, tu sais, de plus sexuel, de plus charnel.
Ouais, ben c'est quelque chose
mais là, qui était sous-entendu. Mais c'était plus primal là-dedans.
Ouais, exactement, primal, tandis que c'est sûr, dans le roman de Bram Stoker, ça devait rester comme dans le sous-entendu, ça. Mais c'est sûr que dans sa société à l'époque où il écrivait, qui était la société victorienne, qui réprimait énormément tout ce qui était sexualité, tout ce qui était pulsion sexuelle, évidemment qu'il pouvait pas l'écrire comme ça. Mais ça fait longtemps que beaucoup de gens ont fait cette analyse-là, de dire comme de quoi que Dracula, c'est un peu un genre de symbole de libération sexuelle.
Mais, tu sais, comme un peu je vous avais mentionné tantôt en écoutant l'original, que mon ami à qui j'ai écouté le film, Jesse, shout-out à Jesse, c'est le fun parce qu'il y a des affaires qu'il pouvait pas montrer. C'est tout cet aspect-là sexuel qu'ils pouvaient pas le mettre à l'avant en 1922. Qu'aujourd'hui, ils peuvent le faire, puis ça fait que c'est plus intéressant, tu sais. C'est plus, OK, il y a de la viande, tu sais, aussi, autour du personnage, mais, là, c'est pas juste de l'os, là.
Mais il y a quand même la direction à faire, puis c'est pour ça, tu sais, que j'ai touché au point comme primal, c'est que tu gardes ta direction. Puis dans ce film-là, tu sais, au moins, ils ont gardé ça vraiment, tu sais, assez constant, puis c'est pour ça qu'on parlait, tu sais, comme l'aspect vraiment, comme la façon qu'il va boire le sang, ouais, il va aller dans le cœur. Même l'interprétation qu'on avait justement de Lily Rose Depp.
Ouais.
Tu sais, c'était justement vraiment très primal, un peu son approche, là, justement, de comme, c'est pas comme complètement sexuel, là. Il y a un aspect animal à ça qu'on voit, tu sais, avec la façon dont il est représenté, là, le corps de Nosferatu, là, qui est vraiment comme. C'est primal, là, t'sais, l'approche là, vraiment. Là, t'sais, chant, encore là, qu'il y a eu des petites concessions. Mais la direction est quand même assez constante là, de fait de comme ah, c'est vraiment comme le look primal qu'on voulait vraiment pousser dans l'approche. Ça, au moins, ça a été comme vraiment constant. Là, ça, j'ai trouvé que c'était.
Parce que même l'arrière de sa tête est comme t'sais, tout endommagé, pas pour, en pourri. T'sais, c'est
mais
comme,
c'est comme du.
Ben, c'est comme un peu des... qu'il disait. Je pense qu'il avait mentionné à un moment donné que c'est comme. Ces démons-là, on va les appeler des démons, là, sont comme ressuscités. Ouais. C'est comme c'est du monde qui ont déjà vécu, qui sont. C'est un peu ça l'impression qu'on avait. Parce qu'il y avait un cercueil. Fait clairement, il a déjà été mort, tu sais, à un certain point. C'est comme... Fait qu'il est genre un peu genre zombie-esque.
C'est ça,
un peu decaying. Ouais. C'est pour ça que je pense que derrière la tête, c'est genre. Son crâne,
ben, c'est
voit.
Ça, c'est ça, c'est... que c'est quand je parlais, tu sais, le Strigoi, tu sais, justement, il en parle dans le film, tu sais, qui a été ressuscité, c'est que, tu sais, c'est un mort vivant. C'est pas, quelqu'un qui va boire du sang pour se rajeunir. Il rajeunit pas.
Non.
Il boit du
sang.
Il fait juste survivre. Puis, tu sais, comme Dracula, que, tu sais, après avoir aspergé, tu sais, ben, c'est engavé de sang, il va retrouver son aspect de jeunesse. Là, c'est pas le cas.
Parce que l'autre affaire, dans le début, quand que les gypsies font leur rituel, tu vois un des vampires qui tue hein, dans le tombeau, il ressemble à ça aussi là.
Mais...
celui-là, l'autre il est zombie-esque, c'est grotesque, c'est dégueu, c'est comme plus à la surtout à la fin quand ils sont en train de de fourrer.
Oh, tu vois, ok, je te voyais patiner, puis j'étais comme, est-ce qu'il va le dire? Parce que, moi, j'ai pas donné de restrictions sur mon podcast, mais je suis toujours curieux de savoir où est-ce que les invités sont prêts à patiner puis se rendre. Est-ce que je vais dire...
Félix, c'est pas que j'ai un mot encore.
Mais est-ce que je vais dire le fourrage? Est-ce que je vais dire... Ils ont fourré.
C'est ce qu'ils ont fait.
Mais encore là, il n'y avait pas un aspect, genre, encore là, amoureux. Comme tu as dit, par rapport à la direction, c'était vraiment comme le sacrifice qu'elle faisait, puis la façon dont il allait comme la consommer un peu, c'était vraiment, ça se tenait.
Le focus sur elle pendant qu'il est en train de le faire, tu sais, c'est un peu poétique, c'est tu le sens... Elle veut pas nécessairement mourir, mais elle sait que c'est ce qu'elle doit faire. T'sais. Elle veut pas quitter parce qu'il y a une certaine partie de elle qu'elle aime son fiancé ou son mari.
Son mari.
Ils sont mariés, c'est son mari, pardon.
Elle apprend à cause de Willem Dafoe qu'elle a pas le choix. That's what she has to do.
Mm-hmm.
Pour le vin puis sauver tu sais.
Willem Dafoe, je trouve qu'il est là un peu for the ride là.
Non mais
il est vraiment que
mais ce qui est le fun c'est juste
let's go.
Il y a incroyablement du fun.
Willem Dafoe, il est toujours le fun à écouter.
Non mais moi je m'excuse mais Willem Dafoe pour moi, il va les shows là, dans ce film-là. J'ai adoré.
Ça a pris un bout avant qu'il se pointe en écran, en plus.
Ouais, quand même.
Mais on l'introduit tôt dans le film. Ah, il y a tel prof que, tu sais, il est considéré comme un peu bizarre à cause de ses théories sur le...
Le machiavélique, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça, c'est le professeur Raoult de son époque, là, je veux dire, il se fait totalement tasser de côté alors qu'il a raison.
En fait, j'ai vu une entrevue avec les Robert Eggers puis Willem Dafoe, puis Willem Dafoe a voulu rencontrer Robert Eggers après The Witch, puis il a dit « J'adore The Witch, j'aimerais ça travailler avec toi ». Puis ça paraît là que c'est deux chums.
On se rappellera aussi que Willem Dafoe avait joué Nosferatu, avait joué Max Schreck dans Shadow of a Vampire. Film qui est passé dans le beurre complètement.
C'est l'interprétation de Willem Dafoe, c'est un film d'acteur.
C'est juste pour avoir le face-à-face des deux qui c'est assez intéressant, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le film, je vais le dire tout de suite, c'est un film qui se passe pendant le tournage du premier Nosferatu et qui fait comme si Max Schreck, qui jouait le rôle de Nosferatu, le rôle de Hordak, comme si c'était un vrai vampire. Que Murnau était allé chercher.
Parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi Max Schreck était un vrai vampire.
Ouais, c'est vrai, il y a eu comme une légende urbaine qui a circulé, qui est évidemment un peu n'importe quoi, parce que le gars a joué dans d'autres films avant, après.
C'est un acteur de théâtre au départ.
Oui, c'est. Ben, comme tous ceux qui faisaient du cinéma muet à l'époque, ou à peu près tous.
Puis, c'est ça, mais tu sais, c'est quand même John Malkovich qui fait Murnau aussi.
Ouais, c'est ça, mais bref, c'est ça, on en parlera peut-être pas plus que ça, mais bon, c'est cool de voir Willem Dafoe revenir.
Félix, là, coupe ton point.
Non, mais c'est juste ça que je voulais dire. Je voulais mentionner que Willem Dafoe avait joué Nosferatu, c'est juste ça que je voulais dire.
Ouais, oh my god, je l'ai adoré.
Mais, là, comment on est sur le sujet, le casting est là-dessus.
Ouais,
casting 5
étoiles, là.
Ouais, puis comme tu dis tantôt, Aaron Taylor Johnson joue le plus le.
Mais tu vois, moi j'avais peur pour Nicholas Houlton. Moi j'avais peur. Un petit peu parce que Nicholas Houlton, des fois. Aaron Taylor Johnson aussi.
Ben, moi j'ai trouvé, là, honnêtement.
Parce que moi j'ai vu Craven the Hunter, puis.
Oh boy!
t'as eu cette malchance-là?
J'ai pas eu de malchance, on m'a offert un billet, puis j'ai dit je vais avoir du fun à soir.
Ok,
c'est ça que j'ai été déçu de Craven the Hunter. C'est parce que c'est le fun des fois d'aller voir un film que tu sais que c'est vraiment mauvais, mais tu vas avoir du fun avec. Ce film-là a été. Ça n'a pas été assez mal fait pour que je puisse en rire.
Oh.
J'aurais voulu que ça soit plus...
C'est pas un so bad,
plus...
it's good.
Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai été déçu. Mais là, j'aurais voulu que ça soit tellement mauvais que j'ai eu du fun à rire du film, mais le film, il était juste comme mauvais.
mais tu vois, là, tu as vu un film poche avec Aaron Taylor-Joseph, c'est vu un film parce qu'il est able to act.
Non, mais je sais qu'à un certain point, tu sais, à un moment donné, tu veux un chèque, c'est correct. Tu as le droit de vivre, là. Mais tu sais, c'est pour ça que... Il y a eu des films, j'ai vu d'Aaron Taylor Johnson, puis même chose avec Nicholas Houlton.
Moi je pense que
c'est Nicholas Hoult ou Houlton?
Je pense
c'est
Hoult.
Nicholas Hoult. Non, mais moi je trouve qu'il est extrêmement bien casté. Il a vraiment comme une gueule d'ahuri, ce gars-là.
Ah, j'ai trouvé excellent.
Il a toujours l'air de rien comprendre à ce qui se passe autour de lui. Fait qu'il était parfait. Là.
Au départ, ouais. Bill Sarsgaard était supposé jouer Hutter.
Et Anna Taylor-Joy était censée.
Puis Harry Styles aussi était censé jouer. Harry Styles,
tabarnouche.
Et shit, ok, ça s'est arrêté autre
chose. Écoute, on vient de changer de registre, quand même.
Je pense même de ton, puis de tout, là.
Écoute, c'est intéressant, mais moi, honnêtement, j'ai rien à dire sur les
questions. Mais même les personnages mineurs, comme la belle-sœur, ou la femme de Aaron Taylor Johnson. C'est pas des acteurs petits, là. C'est comme des acteurs qui sont capables de. Tu sais, ils sont capables de jouer. Ils sont capables de travailler avec le matériel qu'ils ont, même si c'est des plus petits rôles, des plus gros rôles. Mm-hmm. C'est le fun de voir que tout le monde a eu un peu la chance de montrer qu'ils sont capables de. Ils font un bon job, tu sais.
Oui, c'est ça, comme tu disais tantôt par rapport aux autres films d'avant, où la plupart des personnages étaient effacés.
Oui, puis comme tantôt, tu as dit que Aaron Taylor Johnson était plus le sérieux, il croit pas à ça. Mais après, on avait le contraste avec extrême de Willem Dafoe.
Ouais, ben oui.
Il dit, il y a des éléphants qui volent, puis il va dire « Ah! J'aime ça en 94! »
Ouais, c'est ça.
Non, mais parce que...
J'ai une théorie là-dessus.
Ils ont des scènes ensemble, parce que quand le médecin l'amène, ils sont comme... T'as le contraste dans la scène entre les deux, genre... Ce gars, c'est un malade mental, je veux rien savoir de lui. Mais au final, il a raison. Mais c'est le fun de voir des acteurs jouer des personnages tellement différents, puis ils les mettent ensemble pour les faire clasher.
Mais il est pas. Willem Dafoe, malgré qu'il est super le fun à regarder, il est pas allé trop fort non plus dans le caricatural. Là. C'est ça un peu mon point. T'sais, non, il est fun à regarder.
Oui, c'est ça.
Mais ils sont pas allés trop fort non plus.
Non, mais c'est un acteur. Comme... C'est un acteur intelligent. Là,
oui, mais il est très très bon,
là, Willem Dafoe. Il va servir.
Mais ça aurait été facile d'aller dans l'exagération pour ce rôle-là. Là.
Oui, ben oui, clairement, c'est sûr.
Mm-hmm. Mais c'est parce que c'est ce que j'aime avec. Willem Dafoe, c'est qu'il peut jouer autant, tu sais, des gars super sympathiques que des gars haïssables. Tu sais, il est vraiment très versatile dans son jeu. Là.
Mm-hmm. Oui.
Moi, je vais prendre une petite pause, 2 secondes. On revient, ça sera pas long. C'est bon, donc, on repart. Donc, on avait parlé un peu de Willem Dafoe, c'était un petit peu sûr.
Les autres acteurs, quand même.
Fait que... Et ben, oui. Un des acteurs fétiches, d'ailleurs, de Robert Eager était là aussi, on l'a pas mentionné, Ralph Ineson, qui était dans The Witch, le père de famille, qui joue un rôle qui est intéressant parce qu'il est un petit peu à mi-chemin entre Willem Dafoe et... Aaron Taylor-Johnson, dans la mesure où c'est quelqu'un qui au début représente la science, représente le côté plus rationnel,
le médecin, mais
que le médecin, mais qui a assez d'ouverture d'esprit pour comprendre que la situation est vraiment fucked up, puis que non, il faut y aller vers le surnaturel parce que autrement, on s'en sortira pas, il y a plus rien qui fait du sens là. Donc son personnage à lui aussi est intéressant.
Et Julian The Northman aussi fait, je m'en rappelle plus quel rôle qu'il fait, mais quelle voix ce gars-là là. Écoute, il y a une voix là qui porte là. Puis c'est pas, tu sais, mettons que je dirais, tu sais, un gars qui va faire, tu sais, mettons des premiers rôles. Par contre, on le voit souvent, puis il avait joué dans The Green Knight de David Lowery, qui avait fait A Ghost Story. C'était un médiéval assez intéressant, puis il faisait justement le rôle du Green Knight, puis c'était vraiment... Ça, c'est un des bons films que j'avais vu. Je sais pas si tu l'avais vu, mais je...
Je me rappelle de voir ça, ouais.
Moi, j'étais pas fan, mais c'est correct.
On a tout droit à l'avis. C'est parce que je voulais
moi,
pas qu'on.
Je trouvais que ce film-là, il était ben trop foncé. Là. Ça, c'est comme je voyais rien.
C'est vrai. Mais moi aussi, j'ai trouvé un peu dol, mais je veux dire. Je pensais pas qu'on voulait forcément l'avoir
vu. Non, mais tu vois, tu parles un peu de la couleur, etc. Non, mais attends, mais on va revenir sur ça.
Oui.
Visuellement, ça. Ils ont pris des cues un peu de l'original, puis un peu du film, les ombrages, surtout quand Nicholas Holt approche le château, c'est limite noir et blanc, là, quasiment, là, borderline, le style, l'esthétique, puis je suis comme, mais j'aimais ça, ça l'a apporté de la nuance, puis ça a créé comme... Ouais, c'est sombre.
Oui, c'est dark.
On se met une place pas le fun, là, tu sais.
Ben, d'ailleurs, Robert Eggers s'est beaucoup inspiré de films post-expressionnistes.
Ouais.
De l'expressionnisme, mais post-expressionniste, dont Queen of Spades.
Ouais.
Aussi, même dans le traitement, tu sais, de faire de la fausse neige, c'est super bien, très réaliste. Et, comme je disais tantôt, The Innocent de Jack Clayton, un film. Horreur gothique, mais aussi un film, c'est avec John Barrymore, un film des années 30 qui s'appelle Svengali. Ça, c'est John Barrymore, il fait un hypnotiseur, tu sais. Puis justement, il y a une scène où il est dans une maison, puis tu sais, il essaye d'hypnotiser une femme qui essaye de courtiser, puis tu sais, ses yeux deviennent comme tout embrouillés, puis c'est comme. Il s'est beaucoup inspiré de ça pour, tu sais, les yeux de Nosferatu. Il y a beaucoup de gens avec les contrastes, fait que je trouve ça vraiment intéressant, la direction photo, là, puis tu sais, des fois la lumière naturelle, là, c'était vraiment super bien fait.
Puis même avec quand la nuit, là, on a vu la version non filtrée là, de l'original, là.
Ouais. Celle qui a pas comme le.
On sait pas si c'est jour ou nuit.
Ouais,
on
sait jamais.
Non, mais aussi les petits screens là, de maternelle, là, où est-ce que c'est comme. Ah, là, c'est rose.
Oui, mais. Non, mais...
Là, c'est bleu. Fait...
Mais dans ce film-ci, quand c'est la nuit, c'était très bleu. Encore là, ça allait chercher des cues.
Mais c'est ça que t'avais dit, tu sais, Félix, il y a tellement eu de versions de ce film-là.
C'est ça, parce qu'un truc que les gens savent peut-être pas, c'est que la veuve de Bram Stoker avait poursuivi la compagnie de production, parce qu'eux, ils avaient pas réussi à avoir les droits du film, donc les droits pour l'adaptation du roman. C'est pour ça qu'ils ont changé les noms des personnages. C'est pour ça qu'au lieu que ça se passe en Angleterre, ça se passe en Allemagne. Mais sinon, c'est à peu près l'histoire de Dracula, tout le monde est d'accord. Mais ça s'est su, et la veuve de Bram Stoker, Florence Stoker, a intenté, comme je disais, une poursuite. Et le tribunal lui avait donné raison. Toutes les copies du film auraient dû être disparues. Sauf que, comme le film avait déjà commencé à circuler, il y a certaines copies qui ont réussi à être préservées. Mais ça fait aussi en sorte qu'aujourd'hui, ben, Nosferatu, il y a différentes versions du film qui circulent. Parce que, bon, on s'entend, à l'époque, la distribution de films, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'est aujourd'hui, les films sortent partout en même temps, puis tout dans la même version. Tandis qu'à l'époque, ben, selon où les bobines se ramassaient, ben, le monde pouvait s'amuser un peu avec, hein, puis selon dans quelle ville ou dans quelle région ça pouvait passer, ou dans quel pays, des fois il y avait de la censure qui embarquait.
Puis aussi, il y a des gens qui ne savent pas, mais la pellicule, ça brûle. Ça brûle comme ça se peut.
Ben c'est ça, ça peut arriver que dans ce cinéma-là, il y avait une scène qui manquait.
Parce qu'on perd des films aussi, littéralement, parce qu'il y a littéralement eu des feux. Comme littéralement que parce que ça poignait en flamme là, littéralement là, c'est fait que certains gens savent pas, mais c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de films aussi.
Oui c'est ça. Donc quelle est la vraie version du Nosferatu de Murnau? Ça, elle, c'est
pas vraiment
difficile à dire là, mais déjà on est chanceux que le film ait survécu jusqu'à nos jours.
La version qu'on a écoutée aussi, la musique était
d'habitude c'est de l'orgue, du gros orgue là. Puis ce qui est intéressant, c'est que pour les 100 ans, tu sais, mettons pour certains films expressionnistes qui ont été les 100 ans, le Ciné Club Society dans une église gothique à Montréal, il y a quelqu'un qui joue de l'orgue puis qu'ils font projeter le film.
Mais à l'époque, ils faisaient ça. À l'époque, t'avais un musicien.
Ouais, t'avais un musicien, mais tu sais, on a refait ce principe-là. Puis tu sais, même le fantôme de l'opéra avec Lon Chaney, ben tu sais, pendant qu'un personnage chante de l'opéra, t'avais une vraie chanteuse d'opéra. Fait que je trouvais ça fort intéressant, tu sais, comme une reconstitution, entre guillemets.
Ouais, c'est ça. Puis on dit un musicien. Dans les petites salles, il y avait un musicien. Puis dans les grandes salles, des fois, il y avait l'orchestre au complet. Là. Le cinéma a jamais été silencieux, en fait. Il a été muet à une époque parce qu'il n'y avait pas encore la technique pour mettre la bande-son par-dessus l'image. Ça a pris un temps avant que ce soit mis au point, mais on avait quand même l'idée que ça prenait une ambiance sonore. Ça pouvait pas être une salle silencieuse qui regarde un truc où il n'y a absolument pas de bruit.
On considère même pas le cinéma, tu sais, quand il regardait les films dans...
kinétoscope, je crois.
On sentait, même là, c'était labelé presque comme genre un jouet là, dans ce contexte-là. Fait que oui, tu sais, c'est juste que là, comme tu as dit, il y avait un aspect physique qui était présent, c'était comme du théâtre, c'était comme le blend entre, mais ça n'a jamais été vraiment.
Puis il y a même silencieux. Des pays où il y avait des par exemple des gens qui pouvaient faire la description. Je sais que j'ai oublié le terme, mais au Japon, il y avait un terme précis pour ça.
Oui,
il y avait
des gens qui étaient. Quand je suis allé une fois. Il y avait des gens
qui étaient dans la salle et qui étaient un peu le genre de narrateur qui décrivait le film, qui jouait les personnages en même temps.
Une fois l'expérience, puis c'était bizarre.
Et quand le parlant est arrivé, tous ces gens-là se sont retrouvés au chômage.
Mais c'est vrai, oui, qu'il y avait cet aspect-là. Ça, c'est un peu moins commun, par
contre. Ouais, non, comme je te dis, ça, c'est plus culturellement.
Avant Nosferatu, il y avait eu un film muet de Dracula, dont les copies ont disparu. Mais j'avais vu ça que, justement, il y avait une tentative de faire une adaptation de Dracula.
Je pense que c'est un film hongrois, si je dis pas de conneries.
Tu sais, mais qui a disparu, là.
Eh oui, c'est vrai, Nosferatu n'est pas la première adaptation de Dracula. C'est vrai.
Ça, ben justement, j'ai
la première version non officielle.
Première version non officielle, exactement.
Ben c'est ça, je serais curieux de savoir, parce que s'il n'avait pas été capable d'avoir les droits, à quel point que la femme de Bram Stoker était pour ou contre une adaptation, justement, du livre, tu sais.
And look at her now, she clearly lost.
On sait jamais, peut-être que justement, tu sais, c'est peut-être le vœu de Bram Stoker, on sait jamais.
Ouais, mais là, regarde, il devrait être content, on en parle encore, son projet, fait que...
Ben oui, mais écoute, qui parlerait encore de Bram Stoker si c'était pas de Dracula?
Et voilà, et Nosferatu.
Et Nosferatu, bien sûr. Puis, tu vois, elle, comme tu dis, elle a le mauvais rôle là, dans l'histoire. Là. On se souvient d'elle comme une espèce de vieille grincheuse. Elle est comme, c'est quoi les films?
Vous poursuivez à monsieur! Vous
movies are satanic! C'est cette image-là qu'on a d'elle.
Mais je trouve ça tellement drastique, la destruction d'œuvre. Tu sais, comme, c'est pas juste comme, oh, on vous donne comme une amende ou vous devez payer. De brûler des copies. Oh, ouais. C'est vraiment comme, de comme, faut détruire chaque copie. Ça, c'est quand même assez intense. Comme une notion, tu sais, en cours d'avoir eu ce niveau-là d'intensité. Mm-hmm. De vraiment qu'il faut
absolument. Surtout dans un Murnau qui était quand même pas n'importe qui, là. Je veux dire, c'est quand même considéré comme un des metteurs en scène allemands de son époque. Clairement, un des principaux, un des plus importants. Par après, il va faire carrière aux États-Unis, puis bon, il va mourir assez jeune, là. Mais c'est quand même pas. C'est quand même pas un ticoun qui est aux commandes de ça. Là.
Non, enfin, c'est bon.
Mais c'est sûr que c'était une époque aussi où le cinéma était moins considéré qu'aujourd'hui. C'était pas. La valeur artistique du cinéma était pas autant reconnue.
Mais tu sais, mais même là, comme vous avez copié, il faut brûler la copie. Même juste comme vraiment comme d'une peinture ou peu importe, c'est pas quelque chose qu'on
voir,
là,
vraiment. Wow, c'est sûr.
C'est vraiment. C'est pour ça que je disais comme ça fait extrêmement drastique.
Mais tu vois, la préservation d'or est pas pareille qu'aujourd'hui comme elle était avant.
Non. Clairement. Mais qu'on se soit rendu à ce point-là, c'est assez impressionnant, je trouve. Merci que c'est intense. Moi?
Ah, oui, shit. On a tous un ange à passer, désolé.
Prochain point, Charles.
Oui, mais moi, comme je vous dis, je laisse plus la table. Est-ce que vous avez fait le tour de vos points?
Ah oui, ben écoute, moi j'avais pas de liste forcément.
Ok, soit j'ai aimé comment il est mort. La façon qu'il est mort. C'est pas comme dans les. Il tombe en fumée, là, tu sais.
Ouais, ah non, mais ça,
il,
c'est
il,
vrai.
Il a commencé à il coulait du sang de ses yeux, de tous ses trous, là, quasiment.
Ouais, c'était non, comme, c'est mais tu sais, on parlait tantôt de comment c'est finalement une espèce de parasite, en fait, mais sa mort rappelle ça aussi, c'est vraiment, c'est dégueu, là, ça laisse comme quelque chose de quelque chose en putréfaction qui est là, quand on le voit à la dernière image, qu'il est recroquevillé sur elle, que ça ressemble à une espèce de tableau de la Renaissance, c'est à la fois beau et très dégueulasse, oui, effectivement, la scène de la mort, est beaucoup plus intéressante, cinématographiquement parlant, que dans les vieilles versions.
C'est un peu poétique aussi.
Oui.
Le parallèle, ben, tu sais, quand il brûle, puis t'as les trois hommes qui courent vers la maison.
Ouais.
Ça, j'ai trouvé, c'était
ouais, c'est ça, beau. Parce qu'on s'entend, dans l'original de Murnau, bon, ils font une espèce de bon, ils font... évaporer dans l'écran, ils font une maudit, je perds le terme, voyons ce procédé là quand ils pouvaient comme faire une shit. Bon, en tout cas, whatever.
C'est un genre de surimpression qu'ils font.
C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. À l'époque, les gens voyaient ça, c'était comme, procédé presque révolutionnaire.
Oui, non, mais
c'est juste que pour nous, aujourd'hui, c'est un peu lame.
Puis, mais j'ai pas vraiment autant écouté les autres Dracula que vous autres. Mais dans ce film-là, il meurt comment? D'habitude, tu en fumée aussi?
Dans chaque film, c'est différent.
Dans Dracula, Mort est très heureux, il se transforme en Leslie Nielsen, se transforme en chauve-souris. Puis là, le niaiseur Renfield, il ouvre la porte. Puis là, il tombe en fumée, puis en anglais, il crie « Renfield, you asshole! » Pouf! Il explose.
Écoute, la fin la plus poche, c'est définitivement la version avec Bela Lugosi, je dirais. Parce que il rentre... non, mais c'est vrai, là, il est sur le bord de mordre la fille, mais les deux gars arrivent, fait qu'il s'en va se cacher dans son cercueil, puis t'as juste Van Helsing qui dit à Jonathan Harker, c'est comme « Haha, on a gagné, rentre chez vous, je vais le tuer. » Fini.
Ouais.
Venez, c'est poche en maudit là.
Ouais, poche.
C'est vraiment de la chenoute. Ben, la version Christopher Lee était quand même assez cool pour ça parce que t'as littéralement Christopher Lee qui joue Dracula et Peter Cushing qui joue Van Helsing qui se tapochent les deux pendant un petit bout jusqu'à ce que Peter Cushing voit les rayons du soleil qui commencent à percer un peu puis qu'il arrache un rideau d'une fenêtre et là, Christopher Lee meurt carbonisé, c'est quand même...
Je sais pas, mais tu vois, il y avait une certaine... jolie, like, it was a kind of night, pretty, it was pretty, la fin qui est mort.
La fin...
Il y avait une beauté à...
Tu sais, c'était morbide, mais c'était...
Mais c'était du beautiful horror, ça, c'est sûr.
Oui, mais... Tu sais, même elle, la façon qu'elle meurt, c'est comme, ok, comment qu'elle est morte? As-tu été suffoquée par son poids? Tu sais, c'est un peu plus réaliste dans ce sens-là,
une fin de film aussi qui est à la fois très belle, poétique, et qui, dans ce cas-là, est vraiment très, très, très semblable au roman, c'est la fin du film de Coppola. Parce que c'est le seul qui se termine vraiment comme dans le roman, c'est-à-dire que Dracula retourne.
Ouais, ça, je me souvenais
plus. Dracula retourne à son château avec ses serviteurs gitans et tout le reste du groupe, Harker, Van Helsing, tout ça, les suivent. Et là, il y a une bataille et finalement, ils réussissent à tuer Dracula.
C'est l'Américain qui le transperce. Puis après ça, c'est Mina qui finit la job. Puis après ça, en lui tranchant la tête. Tu vois vraiment, parce que ce qui est beau aussi, c'est que c'est la magnifique musique de Zbigniew Priesner.
Wojciech Kilar,
un
excellent compositeur.
Polonais qui a fait Le Roi et l'Oiseau et Le Pianiste de Polanski. Puis justement, tu sais, c'est parce que dans son château, il y a une peinture de Dracula et sa première femme. Puis ça finit justement sur ce plan-là. Donc très poétique, très beau. Donc c'est encore une beautiful death. Mais tu sais. Je suis d'accord que dans la version 2024, il y a quelque chose de beau, tu sais, à ses yeux qui commence à couler.
Oui. C'est dégueu, là, mais comme c'est. Une certaine, comme je dis, une certaine beauté.
Mm-hmm.
Fait que je trouve ça quand même intéressant.
Mm-hmm.
Donc, est-ce qu'on avait fait le tour de tous vos points? Moi, je suis curieux.
Ben, quelque chose que je peux apporter, ça n'a pas tant rapport qu'on se fera tout, c'est que. Quand je voyais des peintures de Dracula, tu sais, quand j'étais petit pour l'Halloween ou quoi que ce soit, tu sais, c'était très inspiré de Lugosi, le look de Lugosi, tu sais, les cheveux lichés, tu sais, très, tu sais.
Pour toute une génération, il a exactement défini c'était quoi un vampire, ça ressemblait à ça. Ça avait une cape, alors que dans le roman, il n'y a pas de cape. Dracula ne porte pas de cape dans le roman original. C'est Bela Lugosi qui a amené cette idée-là. Et oui, comme tu dis, avec son les cheveux laqués vers l'arrière, le gros accent d'Europe de l'Est, ça c'est vraiment, c'est Lugosi qui a...
À l'Halloween, ma mère m'avait tricoté, c'était vraiment une belle cape, là, tu sais, du velours rouge, là, tu sais, c'était vraiment fancy, là, puis tu sais, j'avais les cheveux lichés, là, comme... Puis c'est parce que c'était beaucoup l'image qui est devenue canon de Lugosi, alors c'est pas ça, tu sais, il y a comme... tu sais, encore une fois, Coppola qui a amené l'aspect plus slave...
C'est un look un peu moyen-âgeux. La manière.
On t'avait mis on the spot, là, j'avais peur, je voulais pas que tu sois.
On the spot, j'adore être on the spot, là. Je dire, pourquoi tu penses que je suis dans un podcast où on me voit même pas?
Avec pas de notes, hein, c'est pour ça. Le film, étant donné, il était quand même long. Pas en termes de. It didn't feel long, mais c'est quand même un bon runtime, plus que l'original. Un 2-2 coq.
Ah oui,
mais,
le
j'ai trouvé que. Tu sais, comparé à l'original, j'avais pas des moments où je serais. Ok, c'est long. Hein.
Le rythme est excellent.
Comme, tu sais, les gypsies, ils vont l'utiliser, mais d'une classique comme correcte, tu sais. Il n'y a pas l'affaire du loup-garou. Peut-être qu'ils l'ont mentionné, mais comme. Le focus n'était pas là-dessus. Dans l'original, il y a beaucoup d'enfants sur le bateau, puis le se revenir, tu sais. C'était long. Non, mais ici.
Ouais, c'est ça.
Mais il faut qu'il traverse la place avec son cercueil sous le bras. C'est tellement.
Mais ça faisait vraiment pas naturel.
Personne dit rien, je veux dire. C'est correct. Ah, ben, le nouveau voisin, il est spécial.
On dirait que moi, j'ai un PA ce jour-là. Il était vraiment comme.
Mais c'est là d'où vient un peu les B-plots et le développement des autres personnages. C'est là que ça vient, tu sais, ajouter au film. Mais j'étais comme. C'était long, mais c'était pas. It didn't feel long. Ça a pas dragué, personnellement, à des endroits. Tout a quand même. Le pacing était quand même bon à travers.
Oui, excellent.
Étant donné, Robert Eggers, il a confirmé qu'il allait avoir un Extended Edition sur le Blu-ray. Fait que. Moi, j'ai hâte de voir un peu combien de temps il va être fait, qu'est-ce qui va être plus élaboré. Parce que, quand même, la version qu'on a eue était quand même. Pas mal bien élaboré de base. Je vais être curieux de voir la version extended personnellement.
Ouais, bah moi aussi, je pense que je vais me ruer là-dessus.
Je connais juste comme les longues versions.
Mais surtout quand ça l'apporte du plus, tu sais.
Mais des fois c'est long.
Non,
moi c'est ça. Ben comme j'ai dit, moi mon point que j'ai voulu comme faire l'emphase dessus, c'était pas comme. Quand je parlais de la neutralité que j'avais, encore là, je pense pas que c'est le bon terme que je devais utiliser. C'est moi, mon point, c'était vraiment le fait que, comme j'ai regardé ce film-là, puis c'était l'affaire que je disais que je pensais quand je regardais ce film-là, on dirait juste qu'il y avait eu des concessions.
C'est plus une réserve. T'as eu une réserve plus qu'une neutralité.
Ben, juste parce que justement, j'étais tellement. j'avais l'impression que c'était pas possible que Robert Eggers fasse un film aussi capable de faire un film qui était moins dans l'intensité. Comme d'habitude, il est connu pour une intensité vraiment plus forte. Mm-hmm. C'est pour ça que, par rapport justement...
C'est sûr, après, toute proportion gardée aussi, parce qu'on s'attend quand même des moments dans le film qui sont assez
intenses. Ouais. Mais c'est ça, c'est juste comme justement par rapport à cet aspect-là, c'était vraiment ça mon point, c'est que je sentais pas qu'on avait comme le Robert Eggers à l'état pur. C'était pour ça que je parlais comme un peu de concession.
Ouais,
que ça m'étonne pas de penser que Universal a rentré là-dedans. Puis il a dit, ouais, calme-toi peut-être un petit peu là-dessus. Là. Tu sais, comme justement parce que, c'était ça mon point, des fois j'ai presque besoin de sous-titres pour comprendre ce qui se passe un peu dans les films de Robert Eggers parce qu'il y a une obsession tellement forte sur l'authenticité et la fin de même.
Mais on peut se poser la question par rapport à ce que tu dis, on peut se poser la question, tu sais, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que d'un côté... Est-ce que ça fait pas que certains fans de la première heure sont déçus? Ça, c'est le mauvais côté. Mais le bon côté, ben, c'est peut-être que ça amène plus de gens à se réintéresser.
Mais ça rend le film plus accessible.
Mais tu vois...
Intéresser au mythe.
Ça va, je vais aussi faire un petit peu en face. On va parler un petit peu tantôt aussi. Le marketing. Moi, personnellement, j'en ai pas vu tant que ça. En partant.
Moi, j'étais surpris.
J'avais quasiment pas que ça s'en venait. Là. J'ai su derrière... Mettons, derrière
moi, minute. J'ai vu juste beaucoup de posters. J'ai pas vu vraiment beaucoup de trailers.
Mais j'aimais ça parce qu'on n'a pas trop dévoilé.
Il y avait des petits spots. Presque les old school TV spots, il y avait genre des années 2012, là, ces affaires-là, de comme une minute, même pas.
Mais c'était attendu chez les cinéphiles. Mettons, souvent sur Letterboxd, ça fait un bout que leur image, leur bannière en haut, c'est Lily Rose Depp dans le film. Mm-hmm. Tu voyais qu'il y avait quand même...
Mais, oui, il y avait du marketing, mais ça n'a pas été...
C'était pas in your face comme d'autres films, tu sais. C'est pas un film, moi, je n'en ai pas vu tant que ça,
Je suis d'accord, c'est ça. Mais moi, tu sais, contrairement, tu sais, mon meilleur ami qui est fan de Eggers, lui, comme, il est allé au forum voir un autre film, le trailer a commencé, il est sorti, parce qu'il voulait avoir aucune attente. Moi, on dirait que j'ai beaucoup, tu sais, lu... j'aime ça, tu sais, beaucoup... lire sur les films, mais tu sais, je me suis beaucoup renseigné, tu sais, sur comment, tu sais, encore une fois, la recherche qu'il avait fait, là.
Ouais.
Fait que, tu sais, encore une fois, moi, c'était peut-être un peu plus dangereux, entre guillemets, tu sais, est-ce que là, j'ai trop d'attentes, fait que je pourrais être encore peut-être très déçu, ce que j'ai pas été, fort heureusement. Mais c'est vrai que, tu sais, qu'il y avait pas, puis c'est ça que j'ai aimé, il y a eu genre deux bandes annonces, puis c'est souvent comme ça avec Robert Eggers, c'était comme ça avec The Northman, il y a une ou deux bandes annonces, c'est tout.
Mais écoute, dans son temps, avec des fois, il y a des balances que tu vois tout le film au complet. C'est comme...
Ben, c'est ça, c'était pas ça du tout.
C'est le fun. C'est le fun de pas savoir. De pas trop avoir d'attente, tu sais. Puis ça m'a surpris, parce que tu as parlé tantôt que ça jouait dans beaucoup de salles. Moi, je m'attendais au point qu'il n'y avait pas beaucoup de marketing, de mon point de vue. Moi, je pensais qu'il n'allait pas voir grand monde dans notre salle. Puis on est allé voir ça un vendredi. Puis on n'était pas plein, mais on était quand même. Il y avait beaucoup plus de gens dans ma salle. De ce que je m'attendais.
Il y a un intérêt. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai vu au cinéma du parc. Puis en général, quand je vais dans ce cinéma-là, j'aime beaucoup le cinéma du parc, mais la plupart du temps, quand je vais là, les salles sont à peu près vides. Puis là, il y avait quand même pas mal de monde.
Ça, c'est surprenant. C'est pas pour moi, en tout cas. C'est surprenant autant donné que...
Moi, avant
non, le film a trouvé son public. Est-ce qu'il a plu à tout le monde? Ça, c'est une autre question.
C'était ça, mon point. Avant
mais il a trouvé son public.
Avant de terminer, moi, j'aimerais qu'on touche à un point parce que c'est quelque chose que tu m'as surpris. Parce que moi, justement, je me sens un petit peu comme aliéné dans ma perspective. Ben, comme j'ai dit, c'est pas que j'ai pas aimé le film, mais je trouvais qu'on n'était pas dans le Robert Eggers à l'état pur. Je pense que c'est ça mon point, qu'il y a eu des concessions.
Okay.
Je pense que c'est plus ça mon point. Je me reprends. Mais ça, tu m'as surpris. Moi, j'ai pas entendu beaucoup de négativité sur ce film-là. Puis tu m'as dit, oh non, je trouve que j'ai entendu des affaires.
Ah ouais, ben écoute, je t'ai dit de manière.
Moi, dans la généralité, je trouve que c'est un film qui a plu à beaucoup.
Oui, la plupart des gens ont aimé, mais j'ai quand même entendu. J'ai quand même entendu des commentaires de cinéphiles là,
ouais.
que je connais de proche ou de loin, puis qui ont été déçus puis qui n'ont pas embarqué. Mais ça reste des exceptions. C'est sûr que la
fait que le film, en général...
De manière générale, le film est bien reçu. De manière
Moi, tu sais, j'avais lu Le Devoir, il donnait 4 étoiles, la presse aussi, tu sais, puis tu sais, beaucoup de 4 étoiles, peut-être pas des 5, mais tu sais, c'était... Il y avait
4 sur quoi?
4 sur 5.
OK.
Par contre, ça, c'est IndieWire, tu sais, que j'étais comme... parce qu'il avait dit, genre, visuellement, c'est stunning, mais tu sais, likes bite. Puis ça, tu sais, encore une fois, c'est une opinion, ils ont tout à fait le droit, tu sais, c'est correct, là. Fait que c'était comme, fait que, tu sais, c'est...
Mais dans la généralité, je trouve que c'est un film qui a quand même plu beaucoup, je pense.
Mm-hmm. Ben, tu vois, comme je, mon ami qui connaît beaucoup...
Parce que mettons, Long Legs, là, ça, ça a divisé le monde. Intense.
Ah ouais?
Ah ouais, moi j'ai entendu, genre, vraiment beaucoup...
Très, mais moi, je sais que dans ce
film, très polarisé. Là,
il y avait des gens, surtout sur Facebook, là, qu'ils niaisaient un peu le l'aspect sexuel, mais personnellement, il y avait un certain, tu sais, poésie dans la façon que ça a été établi. Mais non, mon ami qui est gros fan, comme vous autres, des films de Dracula, puis du livre, puis des films originaux, lui a dit que c'est un de ses films préférés que
Je vais rebondir là-dessus parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un film que t'apprécies plus quand t'es fan de ce genre de film-là. Parce que comme je disais tantôt, c'est plein de petits trucs, de petites tropes, de petites références, de petits... tu dis, c'est toujours comment il va reprendre toutes ces scènes-là qu'on est habitué de voir, comment il va les mettre à sa manière, à sa sauce. Mais quelqu'un qui s'intéresse pas aux films de vampires puis qui connaît pas les vieux films d'horreur, c'est sûr que tout ce côté-là, il passe à côté, c'est sûr.
Mais tu vois, moi, j'avais pas de background sur ce film-là. Tu sais, je connais le personnage.
Mais t'as aimé ça quand même.
Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé ça plus que je m'attendais, même.
Ok, d'accord.
J'étais comme, je pense que j'ai aimé ça, j'étais pas sûr. J'avais pas vraiment d'attente.
Ok.
J'étais comme plus surpris qu'autre chose à quel point j'ai aimé le film.
Ok.
Tu sais, fait que.
Tu vois, moi, j'avais comme le sentiment que peut-être, justement, quelqu'un dans ta situation aurait peut-être moins embarqué. Mais ça a l'air que je me trompais, tu sais.
Ben, c'est
ça. Ou peut-être parce que j'ai une appréciation pour le cinéma parce qu'on utilise en cinéma. Fait peut-être c'est aussi un peu à cause de ça.
Ouais.
Mais c'est comme le fun. Puis c'est le fun de le voir avec quelqu'un qui avait tout ce background-là aussi parce que, tu sais, ça me donnait un peu d'information puis un peu de background que je ne connaissais pas quand je l'avais vu.
Ben, aussi, si je peux me permettre, je sais pas, t'avais-tu fini?
Non, vas-y.
Si je peux me permettre, c'est que 2024, il y a eu des bons films, mais c'était pas une année où il y a eu des films genre, oh, wow, tu sais, qu'il y en a eu plein comme ça. Fait que,
c'était pas une grosse année.
Nosferatu est arrivé, puis là, il y a The Brutalist, tu sais, qui sort, qui apparemment est excellent. Tu sais, il y a eu Conclave, qui était très bon. Puis d'autres films, tu sais, internationaux que j'ai pas encore eu la chance de voir.
C'est peut-être à cause des strikes, probablement.
Probablement. C'est juste que cette année, il y a pas de films que j'ai fait. Tu sais, j'ai pas tout vu comme je dis, mais on dirait que c'était pas été comme 2023 a été une année, oh my god, cinématographique incroyable. Il y a eu des bons films cette année, mais on dirait qu'il y a pas été, à part vers la fin, là.
Pas un gros wow factor.
Ça
a pas été
un gros, oh my god, wow. Ouais,
pas quelque chose vraiment qui a comme changé notre conception du cinéma, tu sais, non.
Donc, merci à vous tous d'avoir été là, comme je savais que vous alliez apporter la bonne game, puis vous avez vraiment apporté des... super bon point.
Ben, merci à toi de nous avoir invités.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Puis on veut remercier Ronnie de nous avoir cédé sa place.
Oui, merci Ronnie. Merci Ronnie. Jesse, on le salue, désolé.
Oh, salut Jesse, aujourd'hui.
Mais de toute façon, ça, je vous dis à 5, là, ça commençait à être vraiment beaucoup.
Mais c'est toujours un plaisir.
Ben, merci à vous d'avoir été là. Ben, encore là, je fais aucune promesse, mais je pense qu'il va y avoir un petit peu plus d'épisodes qui s'en viennent. Mais
les fans t'attendent. Fais-les pas languir.
Mais comme je dis, j'aime pas ça faire des promesses, mais là, oui.
You heard it here first, folks.
Il va sûrement en avoir quand même bientôt. Là. Fait que faites-vous-en pas. Mais on reprend ça lentement, mais sûrement. Donc, merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.